France Musique. Musicopolis. octobre 1919, Vienne. Le journal Le Ménestrel, publié à Paris, relate les dernières nouvelles musicales de toute l'Europe. Fin octobre 1919, on peut lire ce petit encart signé Jean Chantavoine. L'opéra de Vienne, écrit ce distingué musicologue, a donné le 10 octobre, avec un éclat, entre guillemets, d'avant-guerre, et semble-t-il un succès marqué, la première représentation du dernier ouvrage de M. Richard Strauss, La femme sans ombre. Le livret, qui a pour auteur M. Hugo von Hofmannsthal, est un conte. L'héroïne est la fille d'une fée. Naguère gazelle blanche, elle a été blessée à la chasse par la flèche d'un empereur oriental. Devenue femme, elle l'a épousée, mais elle conserve, de son état surnaturel, la singularité de n'avoir point d'ombre. Une jeune teinturière lui prête la sienne, d'où il résulte toutes sortes de complications. Finalement, les personnages se trouvent transportés dans un monde imaginaire où tout s'arrange et où les salue un cœur d'enfant à la veille de naître. La presse loue la partition de Richard Strauss comme l'une des plus riches et des plus variées de leur auteur. La recette de la première représentation a dépassé 100 000 couronnes. On sait qu'en ce moment, la couronne vaut à peu près 10 centimes. Voilà un début bien sombre. C'est que dans La femme sans ombre s'affrontent des personnages bons et des maléfiques, à la manière d'un conte tel que l'a voulu Hugo von Hofmannsthal, le librettiste de Strauss. Ensemble, ils ont déjà travaillé sur trois ouvrages, Electra, Le chevalier à la rose et Ariane Anaxos. Pour le moment, c'est ce dernier opéra La femme sans ombre qui leur a donné le plus de fil à retordre, celui sur lequel ils ont passé le plus de temps. S'il est créé le 10 octobre 1919 à Vienne, pourtant il est commencé depuis 1911. Voilà qui nécessite un petit retour en arrière, n'est-ce pas ? Arrêtons-nous donc en janvier 1911. Le tandem Strauss-Hofmannsthal vient juste d'assister à la création de son dernier opéra, Le Chevalier à la Rose. Déjà un succès, sinon planétaire, du moins pour le moment, européen. Le succès du Chevalier à la Rose est tel, et les deux auteurs en ont été tellement heureux, que la question se pose bien sûr, que faire ensuite ? Tout de suite s'impose l'idée de ce qui va peu à peu devenir Ariane Anaxos, dont un premier canevas de texte est prêt dès le mois de mai 1911. Mais déjà, Hofmannsthal a fait part à son compère de quelques idées. Le 20 mars 1911, il lui propose une action colorée et forte où le détail du texte aurait moins d'importance. Il a devant les yeux, écrit-il, un conte enchanté où deux hommes et deux femmes se trouvent face à face. Cet ouvrage serait à la flûte enchantée, ce que le chevalier à la rose est à Figaro.
Hey,
le tandem Hofmannsthal-Strauss a plusieurs ouvrages sur le métier. Il travaille d'abord à Ariane Anaxos, dont le livret complet est achevé à l'été 1911. Strauss termine la mise en musique au printemps suivant et il travaille à la musique de scène du Bourgeois Gentilhomme, qu'on entendra en introduction à l'opéra. Il achève ensuite l'orchestration d'Ariane Anaxos, qui est créée en octobre 1912 à Stuttgart. Mais Hofmannsthal n'en a pas fini avec Ariane pour autant. Il veut lui adjoindre un prologue, dont il donne le texte à Strauss au printemps 1913. Pendant ce temps, les deux auteurs conçoivent une partition pour les ballets russes de Diaghilev, La légende de Joseph, qui sera créée en mai 1914 à Paris. Et pendant tout ce temps, bien sûr, Strauss exerce le métier qui le fait vivre, celui de chef d'orchestre. Il est chef à l'Opéra de Berlin et il dirige deux autres orchestres berlinois avec lesquels il se fait le champion des musiciens contemporains qu'il défend tant qu'il peut. Comme la plupart des compositeurs, ce n'est que l'été qu'il trouve le temps de composer. Mais comme tout hyperactif qui se respecte, il a toujours besoin d'avoir un ouvrage en route. Début avril 1914, Strauss reçoit le texte du premier acte de La femme sans ombre que lui envoie Hugo von Hofmannsthal. Le 4, il répond « Le premier acte est tout simplement magnifique et si concentré, si uni, que je ne pourrais pas m'imaginer y couper ou y changer une virgule. Il ne s'agit plus pour moi que de trouver un style nouveau et simple qui permette de présenter aux auditeurs votre beau poème dans toute sa pureté et sa clarté. » En tout cas, je vous félicite bien cordialement pour la beauté et la perfection de ce travail. Malgré ces compliments, le compositeur propose quelques modifications, bien sûr. Et quelques jours plus tard, il lui réécrit « Je pénètre lentement, mais sûrement, le style et la mélodie, et j'achèverai facilement le premier acte au commencement de l'été. » Le fils de Richard Strauss, Franz, a raconté que pendant qu'il composait La femme sans ombre, son père jouait chaque nouveau passage à sa mère. « Je me souviens encore, écrit-il, de la naissance de l'appel des veilleurs de nuit à la fin de l'acte 1. J'étais déjà couché quand j'ai entendu la musique s'élever du rez-de-chaussée. Il la jouait avec une émotion si intense, je ne l'ai plus jamais entendu exécuter avec une telle beauté depuis. »
Thank you.
Au mois de juillet 1914, alors qu'il a achevé l'acte 1 de « La femme sans ombre », Richard Strauss reçoit de Hofmannsthal le texte du deuxième acte. Il le trouve, écrit-il à son librettiste, « merveilleux, grandiose ». Vous n'avez de toute votre vie encore rien écrit de plus beau ni de plus achevé. Espérons que ma musique sera digne de votre belle œuvre. Pour le moment, je suis encore très mécontent de moi. Strauss commence son travail sur le deuxième acte de « La femme sans ombre » lorsque le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre au royaume de Serbie. Hofmannsthal, officier de réserve, part aussitôt rejoindre son régiment en Istrie. Strauss s'inquiète, il écrit à Madame Hofmannsthal. « Chère Madame, j'ai reçu de Hugo une carte d'adieu provenant de Vienne. Elle a bien sûr jeté la consternation dans mon esprit. » Où a-t-il été envoyé? Doit-il rejoindre l'armée active ou bien reste-t-il comme réserviste loin des coups de feu? On pourrait vraiment laisser les poètes chez eux quand on a déjà de la chair à canon en abondance, les critiques, les metteurs en scène qui ont des idées à eux, ceux qui jouent Molière, etc. Je suis toujours aussi convaincue qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, que la petite prise de bec avec la Serbie appartiendra bientôt au passé et que je recevrai l'acte 3 de ma femme sans ombre. Ces Serbes de malheur qu'ils aillent au diable. Hofmannsthal, heureusement, a très vite été rapatrié sur Vienne. Mais son travail n'avance pas, il est déprimé par la guerre et puis il ne peut écrire que pendant ses permissions. Strauss, toujours aussi plein d'énergie, lui annonce au mois d'octobre « Je viens d'achever le solo de l'impératrice. Il est plein d'une musique très expressive. La scène de l'empereur est également très réussie. Le banquet de Barak est plein de gaieté et de vie. Tout est très varié. Il faut dire que le texte est superbe. Il se compose avec une aisance fabuleuse. Il est une stimulation continuelle. Et puis, il est si concis et si prégnant. Mon cher scribe, c'est vraiment là votre chef-d'œuvre. Au milieu de tous les désagréments apportés par cette guerre, mis à part les actions glorieuses de notre armée, la seule façon d'être sauvé est de travailler avec acharnement. Dès le mois d'avril 1914, Hofmannsthal avait parlé à Strauss du troisième acte de La femme sans ombre qui devait couronner le tout et, bien au-delà du premier et du deuxième, conduire vers un paradis dans les jardins duquel musique et poésie, cette fois main dans la main, sembleront marcher sans toucher le sol, sans que l'une forme obstacle à l'autre ni l'arabesse, ainsi que le permet ce sujet unique et magnifique. Au mois d'octobre, Hofmannsthal annonce: le troisième acte sera très beau et bref. Il se termine par un puissant mouvement ascendant où sont anticipés, d'une façon à moi-même mystérieuse, les terribles événements que cette année nous a apportés. Mais Strauss, lui, va peiner sur cet acte. Il se plaint des personnages, de l'empereur, de l'impératrice et de la nourrice, leur reprochant de ne pas être une maréchale, un Octavian, un Horse, qui ont du sang bien rouge dans les veines. Il écrit: je peux bien me fatiguer la cervelle et je me tourmente, je passe au crible, mais le cœur n'y est qu'à moitié. Et dès que la tête doit accomplir la plus grosse moitié du travail, il souffle une brise de froideur académique et on a beau s'aider d'un soufflet, on n'en fait pas un vrai feu. J'ai donc maintenant ébauché tout le final de l'opéra, le quatuor et les chœurs, c'est bien enlevé, avec un beau crescendo, mais ma femme trouve ça froid et il lui manque la veine mélodique ardente allant droit au cœur du trio du chevalier. Hofmannsthal a conjuré Strauss de ne pas se laisser intimider ni par ses propres sentiments ni par les avis de son épouse. À la mi-août 1916, le compositeur écrit au librettiste. L'acte 3 est terminé. Mais notre discussion très bénéfique m'a rendu si peu sûre de moi que je ne sais plus du tout ce qui est réussi et ce qui est raté. Et ce n'est pas une mauvaise chose. À mon âge, il a 52 ans, on aurait trop tendance à s'enliser dans la routine, qui est la mort de l'art véritable. Malgré tous ses soins, l'ouvrage n'aura pas de chance. Conçu avant la guerre, il va être représenté après, alors qu'en 4 ans, on a changé de siècle, d'esthétique, de préoccupation. Gageons qu'à présent, 100 ans après sa création, la femme sans ombre va pouvoir rejoindre son public. La femme sans ombre, acte 3, avec Julia Varadi, l'impératrice, Placido Domingo, l'empereur, José Vandamme, Barak, Hildegarde Bérens, la femme, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Sir Georg Solti. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Éric Boisset pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.